Alors, bon, c'est vrai que, bon, je dirais pas que nous avions peu d'informations, mais on ne savait pas quand même exactement comment ça allait se dérouler, comment Christine avait organisé. Donc, nous, on a préparé, j'allais dire, comme c'est courant dans notre culture, un topo sur l'expérience. Donc ça ne va pas du tout. Comment je peux éteindre ce bidule ? Ici, il doit y avoir un
sur le dessus.
Ah, voilà. Menu, help, non. Et esque. Ah, voilà, parfait. Je suis là. Bon. Ah. Avant, c'est peut-être beaucoup, non? Alors, on a jusqu'à quelle heure? Jusqu'à
midi.
Midi. Vous, est-ce que les. Donc, pour l'instant, nous avons un rapporteur. Alors, sur les questions, moi, ça me paraît peut-être. Les questions sans réponse, ça me paraît peut-être un peu limité. Donc, plus sur. Les questions posées, soulevées, etc. Et puis donc il nous faut un rapporteur subjectif qui fasse c'était vraiment ennuyeux, on s'est cassé les pieds, c'était que des mauvaises questions, les chercheurs sont à côté de la plaque, enfin allez-y quoi. Donc je sais pas qui veut jouer ce rôle aussi en rôle long. Donc vous ne pouvez pas puisque vous partez.
Je sais pas vraiment.
Mais vous pouvez dire des choses gentilles aussi. Hein. Là, j'ai un peu caricaturé, mais vous pouvez dire des choses. D'accord, gentilles aussi. Bonjour.
Bonjour.
Ou alors on dit que c'est le dernier arrivé. Voilà, le dernier arrivé qui fait le.
Pas tout pour enregistrer le son.
Écoute, Michel Bois a mis en route et il m'a dit que ça marchait.
Bon, non, c'est bon.
Voilà. Est-ce que vous acceptez d'être le rapporteur subjectif ou...
Alors, le souci que je vais avoir, c'est qu'on doit partir sans doute assez tôt, on doit se rendre dans un autre lieu. Donc,
oui.
Ça se fait quand?
Ça se fait à midi.
Au retour, à midi, donc jusqu'à les ateliers, c'est jusqu'à 1h15.
Ce que vous voulez, ou votre voisine était presque décidée.
Ils auront le temps, apparemment.
Bon.
Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il y a un problème ensuite. C'est un premier train pour rouler.
Mais bon, voilà, c'est pas que je veux pas, mais ça risque d'être rapide.
Bon, donc vous y allez, rapporteur subjectif.
Ou alors on vous passe en premier au niveau du rapport.
Bon, c'est réglé, hein. Bon, voilà, donc nos deux rapporteurs. On est peut-être suffisamment peu nombreux pour se présenter. Je vais commencer. Donc, je suis Annette Gonabolo et je travaille donc à l'Université de Nantes. J'avais mis en place le module sur les évaluations dans le système éducatif en licence dont Martine a parlé et dans lesquelles donc, la MIVIP intervenait. C'est vrai que nous avons mené pendant des années... un travail très intéressant et puis un changement de maquette a fait que ça ne s'est pas poursuivi dans ce sens-là. Et donc là, nous avons été enrôlés avec ma collègue Carole Daverne sur la question d'expérimentation des bacs professionnels en 3 ans. Alors Carole Daverne est vraiment désolée de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais elle attend un bébé et sa grossesse ne se passe pas très bien, donc elle doit rester allongée. On a retravaillé le texte un peu toutes les deux hier soir, mais je suis toute seule à vous présenter ce travail qui donc est mené par deux chercheurs d'Ukraine. Je disais qu'on est suffisamment peu nombreux peut-être pour se présenter rapidement. Je trouve que c'est plus sympa.
Oui. Je commence. Il y a Marie-Claire Thomas, je suis coordonnatrice du pôle académique de soutien à l'innovation de l'Académie de Lyon.
Catherine Dambrine, donc je suis chargée des expérimentations à la MEP dans l'Académie de Poitiers.
Eric Juteau, principal adjoint, collège de Galiné à Blanc, dans le nord du département de Loire-Atlantique. Philippe Radivois, UEM, la science et technique industrielle dans cette académie.
en conseillère pédagogique sur Aurel, dans l'environnement, pour le fond de
Marie-Louise Bourgoin, l'économie de gestion,
Frédéric Couchy-Bianchi, je suis professeure de lettres et déchargée d'une partie de mon service pour l'Académie de soutien à l'innovation dans l'Académie de Nice.
Anne-Claire Ruffin, professeure adjointe au lycée professionnel à Cholet, Académie Nantes.
Marie-Louise Féminin, professeure du lycée professionnel à Rango à Nantes.
Bon, donc comme je vous l'ai dit, la culture de l'université fait que nous avons préparé un topo. Je vais essayer de le raccourcir pour pas prendre trop de temps en laissant la possibilité de questions peut-être après, de façon à ce que ça soit plus dynamique. Mais bon, je vais quand même commencer par parler de l'expérimentation BACRO en 3 ans, donc post-collège. Alors, nous sommes partis de l'idée que les expérimentations affichent en général des bénéfices pour un plus grand nombre d'élèves. Alors là, c'est très, très vague. Et donc, nous nous sommes interrogés sur le rôle que les élèves eux-mêmes jouent dans la mise en place de ces expérimentations ou peuvent jouer. Et ce qui nous paraît quelque chose d'un petit peu rare encore, et sans doute très difficile. Mais tout se passe dans ce que nous avons observé, on avait pu voir dans d'autres travaux précédents, comme si les élèves étaient un peu les spectateurs d'une nouvelle mise en scène de l'activité scolaire. Donc nous nous sommes inspirés de la théorie de la traduction de Michel Calon, qui insiste beaucoup sur le rôle des porte-paroles dans le discours que les acteurs mènent sur leur travail et sur les innovations, et donc qui insiste sur le fait que tous les acteurs doivent associer, y compris élèves, voire même parents, et qui dit que être porte-parole, c'est souvent parler pour autrui, mais c'est souvent faire taire autrui. Donc nous avons souhaité donner la parole aux élèves et centrer notre travail sur les élèves. Et nous avons émis, mais c'est venu progressivement dans l'observation, mais maintenant nous creusons plus cet aspect-là, l'hypothèse que si les élèves sont quand même impliqués, enrôlés dans la mise en place d'une expérimentation, si un espace d'intérêt commun collectif est créé, ça permet aux enseignants de travailler autrement, d'établir d'autres types de relations et d'autres approches pédagogiques dans l'établissement, et l'élève devient vraiment sujet et non pas objet dans le processus. Donc voilà un petit peu pour notre cadre théorique dit très rapidement. Alors quelques mots pour ceux qui connaissent moins sur les bacs professionnels post-3e. Donc les bacs pro avaient été mis en place en 85, donc ça fait plus de 20 ans, et marqué par une volonté politique de redonner à la fois une valeur à des filières dévalorisées dans les lycées professionnels, de répondre à la demande des entreprises d'élever le niveau de qualification et de désenclaver l'enseignement technique qui apparaissait comme une voie de garage un petit peu à part. Donc le baccalauréat professionnel est devenu progressivement une voie possible pour les élèves de passer un BEP, puis ensuite un bac professionnel, de poursuivre par un DUT, un BTS, voire l'université, même si les différentes recherches ont montré que c'était pas toujours une réussite à l'université, mais pour certains, oui. Donc on a bien assisté à un désenclavement et une possibilité pour les élèves de cheminer dans le système éducatif. En 2002, une expérience est tentée de proposer des filières de baccalauréat professionnel directement après le collège. Donc, si mes sources sont bonnes, mais vous savez peut-être mieux que moi, j'ai cherché pas mal, mais ça a démarré dans l'Académie de Créteil et quand même sous l'initiative de l'Union des industries métallurgiques et minières, c'est-à-dire à la demande des entreprises. Dans certaines filières, les qualifications que proposait le BEP ne correspondaient plus aux besoins des entreprises et on était bien dans cette demande d'un plus haut niveau de qualification. Et du côté des missions du système éducatif, à savoir permettre à des élèves de s'insérer socialement, c'est vrai que le BEP, dans certaines disciplines, ne permettait plus de trouver du travail sur le marché de l'emploi. Donc, mise en place de ces bacs professionnels post-3 ans. À ma connaissance, là aussi, il n'y a pas eu de recherche. Les chercheurs on se connaît quand même, tous ceux qui travaillons sur l'enseignement professionnel depuis pas mal d'années, personne ne s'est trop intéressé à cette question. Et le document important que j'ai trouvé, c'est une évaluation de l'inspection générale, donc qu'on trouve sur le site, qui permet de mieux comprendre le déroulement et les failles de cette première phase de l'expérimentation. Alors, dans l'Académie de Nantes, c'est en 2007 que le rectorat et les corps d'inspection, très probablement, ont décidé de mettre en place, à titre expérimental, ces filières de baccalauréat professionnel en 3 ans. Alors, on a identifié, à travers différentes réunions auxquelles on a assisté, différentes logiques auxquelles les acteurs font appel à certains moments. Une logique d'emploi, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, le BEP dans un certain nombre de professions n'assure plus un emploi, donc pourquoi le conserver finalement. Une logique organisationnelle, c'est-à-dire il serait cohérent d'aligner bac général, bac technologique, bac professionnel sur 3 ans, filière comme les autres. Une logique curriculaire, enseignants, élèves, corps d'inspection, disent qu'il y avait des redondances dans les programmes BEP, bac pro, ce qui entraînait une certaine lassitude des élèves et des enseignants. Une logique vraiment centrée sur l'intérêt des élèves dans le cadre scolaire, c'est-à-dire que des élèves qui avaient fait un BEP en 2 ans avaient parfois des réticences à se réembarquer pour 2 ans pour un bac pro parce que c'était long, voire poser des problèmes financiers à leur famille. Donc gagner 1 an était pour eux tout à fait important. Et puis une logique économique qu'il ne faut pas cacher non plus, c'est que la mise en place de cette filière permet l'économie d'un certain nombre de postes d'enseignants. Donc toutes ces logiques sont en interférence et les acteurs qui se sont impliqués, ils font appel à différents moments. Donc, nous avons senti, nous, une très forte implication dans l'Académie de Nantes de la part des corps d'inspection. C'est-à-dire qu'il y a eu pas beaucoup de réunions, de discussions, des groupes de pilotage par établissement ont été mis en place avec un inspecteur qui pilotait l'ensemble. Donc, vraiment, un enjeu très, très fort pour l'Académie. Avec, par contre, ce qui nous a surpris, une sorte de réticence à s'inspirer de ce qui avait été fait dans les autres académies. On a ressenti le besoin de créer ses propres filières de façon à répondre au contexte local de façon très, très forte. C'est-à-dire que, alors, si on parle d'autres innovations, on parle de circulation de savoir, il me semble que les savoirs, on peut circuler au niveau des enseignants dans les établissements entre des expériences déjà menées dans d'autres académies, et les savoirs, on peut circuler entre les établissements même de l'académie. C'est-à-dire que chacun s'est un peu, j'allais dire, rigidifié, c'est péjoratif, mais c'est mobilisé fortement pour travailler dans son établissement, d'abord, et après, on verra. Donc, le dispositif s'est construit, et nous avons choisi de travailler sur 2 établissements qui ont mis en place des filières de comptabilité, donc pas STI, dans l'académie, deux établissements, parce que, comme l'a expliqué Catherine, Christine, notre temps était limité et nous ne pouvions pas. Je suis très admirative de tout ce que fait François Muller à Paris, mais nous n'étions pas dans la même posture et donc un travail beaucoup plus limité. Alors la recherche, nous sommes allés dans les deux établissements, bien entendu. Nous avons assisté à des réunions de concertation des enseignants. Nous avons assisté à une réunion de concertation, équipe de pilotage des corps d'inspection, corps d'enseignants. Nous avons, donc pour voir quand même un peu le contexte de la mise en place, nous avons fait un entretien assez long avec chacun des chefs d'établissement pour voir comment il était rentré dans le processus et comment il manageait. Nous avons fait un entretien avec l'équipe des enseignants qui étaient engagés dans l'expérimentation. Nous avons fait passer un questionnaire à l'ensemble des élèves, donc qui n'étaient pas nombreux, hein, 19 dans un établissement, 12 dans un autre. Et nous avons, issu de ce questionnaire, choisi 8 élèves, 4 dans chaque établissement, pour le suivre sur 3 ans, pour voir comment finalement, avec des profils différents, nous avions choisi avec des profils différents, cursus antérieur, trajectoire scolaire antérieure différente, projets différents, milieux socio-culturels différents, donc des élèves contrastés, voir comment ils s'emparaient ou pas de cette expérimentation, comment ils s'emparaient de ce qui était présenté comme une chance qu'on leur donnait, et finalement, un petit peu dans leur trajectoire personnelle, qu'est-ce qui faisait que ça marchait ou à un moment ça ne marchait pas, puisqu'on a un déjà pour qui, sur les 8, pour qui ça n'a pas marché, il a décroché. Donc, des marges de recherche très classiques, je trouve, après avoir entendu tout ce que j'ai entendu hier. Donc pas de jeu de rôle, questionnaire, entretien et retravail après sur ces données. Alors nous avons retenu là pour l'exposé 3 entrées. Ce que font quand même un peu les chefs d'établissement dans la mise en place de ce dispositif d'expérimentation et leur regard sur les élèves, la place qu'ils accordent aux élèves, puisque notre fil directeur, ce sont les élèves, mais il suffit, certes, nous allons donner la parole aux élèves, et je finirai par ça, mais il est important aussi, nous semble-t-il, d'avoir le regard de l'ensemble des acteurs de l'établissement sur ces élèves. Alors, les chefs d'établissement se sont engagés dans cette expérimentation de façon différente dans les deux établissements. Dans le premier établissement, le chef d'établissement arrive. Alors, c'était le cas de figure que nous présentait Romuald dans ce que nous avons travaillé hier après-midi en arrivant. Et c'est son prédécesseur qui avait mis en place l'expérimentation portée par un groupe d'enseignants qui a déjà une culture de l'innovation dans l'établissement, qui avait mis en place des BEP en un an, qui était toujours à l'écoute des propositions possibles d'innovation, une bande de copains, le proviseur nous les présente comme tels et eux-mêmes se présentent comme tels, puisque, j'y viendrai après, mais ils ont travaillé toutes les vacances, ils sont débrouillés pour se voir, pour monter le projet. Donc une équipe soudée, sur lequel s'est appuyé le chef d'établissement antérieur, qui donc ont adhéré au projet presque immédiatement et se sont mis au travail tout de suite. Ce qui a créé dans l'établissement des problèmes. Les autres enseignants se sont sentis un peu exclus du dispositif. Pourquoi eux, pas nous? Ça s'est fait très vite, on n'en a pas parlé collectivement. Donc un problème au niveau de la place de cette expérimentation au sein de l'établissement. Et c'est un petit peu quand même ce qu'on a senti en y allant donc en 2007-2008, c'est que c'était un peu, alors un état dans l'état c'est beaucoup dire, mais c'était quand même quelque chose d'un petit peu à part dans l'établissement par rapport à l'ensemble de la vie d'établissement. Donc le nouveau chef d'établissement est arrivé avec cette situation, tout à fait favorable au bac pro 3 ans. Elle arrive de l'Académie Créteil, enfin je dis elle, je n'ai pas dû, c'est totalement anonyme, mais donc de l'Académie Créteil, et donc elle connaissait déjà l'expérience, donc elle trouvait les résultats plutôt positifs. Donc Et son rôle se bornait, nous a-t-elle dit, à faciliter le travail. Donc peu de politique active pour soutenir l'équipe, prendre des contacts avec des partenaires extérieurs, pour apporter des éléments, mais plutôt une position en retrait en disant ben, les enseignants ils savent faire, ils veulent faire, donc moi j'essaie de leur faciliter la vie, mais c'est tout. Hein. Et elle voit dans cette expérimentation une opportunité à saisir pour assurer la pérennité de l'établissement, une image et un partenariat fort avec le monde des entreprises et pour lutter contre la concurrence avec l'enseignement privé. Or, dans l'Académie de Nantes, moi qui n'en suis pas issue, c'est quelque chose de très très fort qu'on sent très vite. Les rivalités publiques-privées sont particulièrement vives. Donc cette idée que ben, il fallait le mettre en place, sinon le privé allait le mettre plus vite en place que nous dans l'éducation nationale. Donc il y avait une urgence. Dans l'autre établissement, nous avons un chef d'établissement vraiment, j'allais dire par rapport au modèle de Jean-Louis de Rouet, vraiment manager de type industriel, c'est-à-dire qu'il prend les choses en main. Il faut valoriser son établissement, donner de la valeur à son établissement, donc image de l'établissement, mais en même temps très, très républicain, c'est-à-dire qu'il y voit le bénéfice d'un plus grand nombre d'élèves et donc le fait que des élèves vont davantage trouver leur place dans l'enseignement professionnel et peut-être éviter de partir vers des filières générales où ils échouent, et donc ils voient l'intérêt général des élèves et l'intérêt bien sûr pour son établissement. Or il a fait un travail très, très volontariste, c'est-à-dire qu'il a négocié avec la hiérarchie pour obtenir le maximum de moyens pour aider les enseignants, les heures de décharge, etc., les modalités de recrutement. Il a établi des contacts avec tous les chefs d'établissement du bassin de formation afin de constituer un vivier d'élèves qui pourraient être intéressés, et en particulier il a visé le public des lycées d'enseignement général pour récupérer des élèves qui échouent. Il a sensibilisé lors de réunions des parents d'élèves, action vis-à-vis des parents d'élèves. Et puis donc il a porté le projet à bout de bras et il a négocié dans l'établissement, il a recherché des enseignants qui seraient partants pour participer à cette expérimentation. Donc là on voit un scénario très très différent où les enseignants ont accepté, tous volontaires, nous ont-ils dit, mais sans avoir une vision très précise de ce à quoi ça les engageait. Donc, quand nous, on les a rencontrés quelques mois après, quelques-uns commençaient à dire dans quoi on s'est embarqué. Surtout que, bon, quand on les a vus en décembre 2007, il y avait un flou institutionnel très fort sur, finalement, la mise en place de cette réforme. Allait-elle être généralisée ou pas, maintien ou pas du BEP? Il y avait les mouvements étudiants, il y avait les pétitions syndicales. Donc, disons qu'il y avait une déstabilisation de l'équipe sur cette expérimentation dans laquelle il s'était engagé. Alors, le recrutement des élèves, là, on a deux stratégies différentes. Dans le premier établissement dont j'ai parlé, ils sont passés par le logiciel académique PAM, dont tous les élèves qui ont demandé l'établissement ont été affectés. Et ils ont fait des entretiens fin juin, où ils ont sélectionné les 19 élèves qui leur paraissaient répondre au profil de ce bac pro en 3 ans. Donc, des élèves qui avaient une note quand même assez raisonnable en mathématiques, enfin, ils avaient pris au moins 5, donc c'était pas, enfin un niveau scolaire quand même pas trop nul, excusez-moi l'expression, et surtout des critères de comportement, des élèves qui étaient mentionnés comme quand même adhérents à la forme scolaire et pas en rébellion totale. Donc une sélection, hein, une sélection en juin, sur entretien, donc gros travail sur les entretiens, et sélection des élèves. dans l'autre établissement. Donc il y a eu les affectations PAM, plus tous les élèves qui ont été récupérés venant de seconde générale, etc., grâce au démarchage du proviseur. Donc 40 élèves à la rentrée. Et pendant 2 mois, il y a eu une période où il y a eu 3 groupes qui ont fonctionné en parallèle avec les mêmes programmes, les mêmes progressions. Et entretien et test, au moment de la Toussaint, et 12 ont été sélectionnés pour ce bac pro en 3 ans. Et les autres sont repartis sur la préparation d'un BEP en 2 ans et éventuellement bac pro après. Mais on voit bien que dans les deux cas, il s'agit d'élèves sélectionnés, bon, ce qui pose un certain nombre de problèmes déontologiques dans l'éducation nationale, mais ce qui, bon, donc là, on peut en débattre, mais enfin, ce n'est pas l'objet, ce qui pose aussi un problème sur la nature même de cette expérimentation, où on a un public, alors je ne dirais pas qu'il est déjà enrôlé, mais les élèves se sentent en quelque sorte choisis, élus, et ayant une responsabilité encore plus grande de réussir, puisqu'ils ont eu une chance que les autres n'ont pas eue. Et ça ressort dans les discours qu'on a pu entendre après. Donc, élèves sélectionnés. Les enseignants. Une mobilisation, donc dans le premier établissement, j'en ai parlé, extrêmement forte, et dans les entretiens, enfin, quand on a pu les voir en réunion, puis l'entretien de groupe qu'on a eu, un désir vraiment très, très, une forte angoisse de ne pas réussir, et un désir de faire réussir les élèves absolument. Et la réussite des élèves, c'est la réussite de l'expérimentation, et c'est leur réussite à eux. Et là, on a vraiment eu l'impression de quelque chose de fusionnel. On a eu des expressions comme « on est tous dans le même bateau, donc il faut qu'on y arrive », et donc un surinvestissement de la part des enseignants. Donc des modalités de travail extrêmement souples. Donc c'est l'établissement où l'enseignant ou le chef d'établissement les laisse s'organiser. Donc ils travaillent en binôme professionnel, enseignement général. Les binômes peuvent se composer autrement. Ils dégagent des plages communes où ils travaillent à deux. S'il y a une notion qui leur semble mal passée, ils vont réajuster en le réabordant d'une autre façon par éventuellement une autre discipline. Enfin, ils formalisent leur travail en marchant. Et j'ai le souvenir d'une réunion avec les corps d'inspection où les corps d'inspection demandaient les progressions, des évaluations, etc. Et les enseignants disaient mais vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 8 jours parce que ça va dépendre de ce que les élèves vont faire, si ça passe, si ça ne passe pas. Et donc une souplesse qui demande une présence permanente dans l'établissement, un travail en commun et un suivi très fort des élèves. Donc une implication très forte et en même temps une très grande satisfaction. Ils ne sont pas du tout sur le registre de la plainte. Ils disent que ça relance la machine, que ça les redynamise. On fait tout ce qu'on s'était interdit de faire avant parce que le public était plus difficile. Là, on a un public quand même choisi. Et il n'y a pas de discipline à faire. Les élèves sont partants, ils sont à l'écoute. Ils veulent aussi réussir avec nous. Donc une satisfaction des enseignants en milieu d'année scolaire. Dans l'autre établissement, je dirais que, donc à cause de ce que j'évoquais, les mouvements syndicaux, toute la réflexion autour de la mise en place de ces bacs pour 3 ans, les enseignants sont plus dubitatifs. Donc il y a aussi un gros travail d'investissement, ils travaillent ensemble, ils suivent les élèves, ils souhaitent leur réussite, mais c'est moins fusionnel, c'est plus rationnel. Et puis la reconstruction curriculaire qui finalement est au centre des problématiques, c'est-à-dire réussir à faire en 3 ans ce qu'on faisait tenir en 4 ans, donc qui implique des approches différentes, transdisciplinaires, etc., ils disent, oh là, de toute façon, alors ce bac pro comptabilité doit être transformé aussi, puisque un bac pro secrétariat bureautique comptabilité doit être créé, se substituer. Donc ils disent, on travaille à quelque chose pour lequel peut-être dans un an il faudra recommencer, on y va doucement, donc on essaie de vivre entre la tension de la nécessité de faire autrement et puis quand même de garder encore un peu de l'énergie pour la suite. Donc une équipe moins fusionnelle, plus distanciée par rapport à l'expérimentation, mais aussi assez enthousiasmée. J'ai redécouvert ce que c'était des élèves qui comprennent vite. Donc le plaisir de travailler avec une classe qui en veut et qui veut réussir, et donc le désir de les faire réussir tous. Et paradoxalement, on va peut-être retrouver encore plus du côté des élèves ce visage des professeurs qui les accompagne vraiment de très près pour qu'ils réussissent. Donc voilà, assez vite dit. Alors les élèves, j'arrive à eux, je suis à peu près dans les temps, non je suis...
Il faudrait peut-être aller vite parce que je ne sais pas comment...
Les élèves, donc je vais essayer
de... Puis s'échanger...
Oui, donc les élèves. Les élèves ont des... Alors le point commun, c'est comme tous les élèves du lycée professionnel, hein, ils ont une scolarité chaotique auparavant, avec deux cas de figure, des élèves qui ont jamais bien réussi à l'école, depuis le CP, ça a commencé. Donc finalement, ils arrivent à un moment donné à un échec et il faut envisager quelque chose. Et d'autres qui étaient bons élèves et qui ont eu un accident de parcours, qui peut être un accident scolaire, un prof avec qui ça n'a pas collé, qui avait une discipline importante, familiale. Enfin, on a des parcours assez chaotiques. Et leur engagement dans cette filière est plus centré sur l'obtention d'un diplôme en 3 ans que sur la comptabilité elle-même. Et ça nous est apparu très important. Et le registre de ça nous fait gagner un an, ça fait un an de moins, on l'a énormément entendu. Donc on va avoir un diplôme, on va avoir un bac pro, on va avoir un bac, et puis après on verra. Alors certains déjà ont pris goût à la comptabilité et veulent faire de la comptabilité, mais d'autres non. Donc on voit que là, sur le plan identitaire, on est vraiment à une transition importante dans leur projection dans l'avenir. Donc ils pensent à l'avenir, ce qui n'est pas le cas de tous les adolescents. Mais avec une projection plutôt ambitieuse, c'est-à-dire si on est dans cette filière, c'est qu'on a été choisi. Si on est choisi, c'est qu'on a les capacités. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a énormément entendu. Ils se sentent reconnus enfin comme bons élèves et capables d'eux. Et c'est quelque chose pour eux d'extrêmement important. Et ils ont à cœur de faire bien pour continuer à coller à cette image qu'on leur donne enfin dans le système éducatif. Alors, c'est pas propre sans doute au bac pro en 3 ans, hein, c'est quand même une volonté de l'ensemble de l'enseignement professionnel de reconstruire une image positive des jeunes. Mais là, vraiment, c'est très très fort. Hein. Donc ils ont vraiment une volonté de réussir et déjà une projection dans l'avenir qui peut jouer. Alors, les enseignants, alors ils nous en disent vraiment le plus grand bien. Et un rôle prépondérant. Pour eux, c'est ce qui est le plus important. Alors, ils nous encouragent, dit-il. Ils n'arrêtent pas de me dire, nous dit une élève, « T'as des capacités, vas-y, ne t'arrête pas. » Ils les incitent au travail et à la réussite. Et ils n'insistent pas sur ce qu'on manque, mais ils insistent sur ce qu'on réussit. Alors qu'ils ont l'impression souvent d'avoir été rabaissés dans leur scolarité antérieure, où on leur dit c'est pas bon, etc. Là, enfin, on leur dit que c'est bien et qu'il faut aller plus loin. Donc, incitation à la réussite. Suivi individualisé, encadrement. Un élève nous signale même le cas d'une prof de compta qui est revenue un jour alors qu'elle n'avait pas cours pour l'aider à faire un exercice où il n'avait pas réussi, pas bien compris, etc. Donc vraiment l'impression d'être considéré en tant qu'individu. Ils m'encouragent à aller vers ce que je veux, mais en même temps ils ne veulent pas que je me retrouve sans rien. Donc ils m'aident à faire des recherches, nous dit l'élève qui est quand même en difficulté. C'est qu'il y a un élève, malgré tout ça, qui a des difficultés, mais on ne l'abandonne pas, on l'aide à retomber sur ses pieds. Sympathie, écoute, proximité avec les élèves. Donc, ils sont sympas. Ce ne sont pas des profs qui jugent les élèves par rapport à leurs notes, mais par rapport à leur caractère. Donc, vraiment, ils ressentent très fortement l'implication des enseignants et ont envie de réussir aussi pour ces enseignants qui donnent tant pour eux. Donc là vraiment, et c'est ce qui nous a fait penser à la notion d'espace d'intéressement, on a vraiment l'impression de quelque chose de collectif qui s'est construit. Alors, je dois dire que dans tous les discours, dans les deux établissements, on entend très peu parler du reste de l'établissement. C'est vraiment une mobilisation sur cette expérimentation et cette classe. Donc, peut-être... Bon, certains ont des difficultés, je vais dire, comme François Muller tout à l'heure, il faut pas tout... certains trouvent que ça va trop vite, ils ont du mal quand même, ils commencent à le sentir... ils commencent aussi à s'inquiéter. Il y a quand même des bémols à ce portrait un peu dithyrambique, mais on pourra y revenir. Ce que je vais dire en conclusion, c'est que donc au moins dans un établissement, mais même dans les deux, si c'est sous des formes moins fusionnelles, il nous semble qu'il y a un espace d'intéressement commun et qui peut être clé de réussite de cette expérimentation. Mais on peut s'interroger sur la généralisation d'un tel dispositif et donc même sur la nature même. Tout à l'heure, j'en discutais avec des collègues, est-ce vraiment une expérimentation ou pas ? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des conditions locales qui sont réunies, qui sont très particulières. Est-ce qu'il n'y a pas une idée un peu, j'allais dire... technique au sens d'industriel, c'est-à-dire qu'on va faire un beau produit avec des curricula aménagés, etc., et on va essayer de le transférer à d'autres établissements. Or, on sait très bien que ça ne marche pas. Il y a des éléments particuliers qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Donc, comment finalement, que garder de cette expérimentation pour une généralisation éventuelle ? Et donc, est-ce que c'est vraiment comment penser une généralisation ? Et d'autre part, la question qu'on se posait, c'est un petit peu sur la pérennité du dispositif. Et cette année, on recommence juste le travail, pour les raisons que j'ai évoquées, là, de la fatigue de Carole. Et donc, je l'attendais. Et puis finalement, maintenant, je l'ai foncé, puisque... elle est arrêtée définitivement. Mais ce que j'ai perçu dans les premières rencontres là, que j'ai pu faire ce mois-ci, c'est ce que on note sur la lassitude des acteurs, c'est qu'il y a une espèce de désenchantement, ça va très vite. On rejoint les premières bac pro des BEP en 2 ans qui, eux, vont faire leur bac pro en 2 ans. Donc, ils ne se sentent plus les élus. Maintenant, des BEP les rejoignent et ils redeviennent des élèves ordinaires de lycée professionnel. Et donc, ils ont l'impression d'être moins mis en lumière. Et donc, les élèves là, que j'ai interviewés, il y a vraiment un désenchantement. Et d'après ce qu'ils me disent des enseignants, mais je n'ai pas rencontré les enseignants, donc il faut avoir les regards croisés pour aller plus loin, il faut être très prudent. Les enseignants eux-mêmes sembleraient moins impliqués dans ce dispositif. Alors, je pense qu'ils disposent peut-être de moins de moyens aussi cette année. Donc, on voit qu'il y a une banalisation de l'expérimentation qui fait qu'on peut s'interroger sur la pérennisation des endroits où elle a été mise en place et les possibilités de généralisation, puisqu'il y avait quand même un contexte local aux conditions particulières. Donc, j'ai beaucoup raccourci, mais bon, vaut mieux qu'il y ait des questions. Alors, je pense que c'est bien qu'il y ait des questions et que ça serait bien qu'il y ait des pistes si certains d'entre vous ont des idées sur comment finalement... Alors, il ne s'agit pas de provoquer l'intérêt des élèves. J'allais dire ça, c'est banal en pédagogie. Ça fait des décennies que ça se fait. On sait bien qu'il faut partir de l'intérêt des élèves. Mais essayer de créer cet intérêt collectif avec l'ensemble d'un groupe d'acteurs dans l'établissement. Si certains ont des exemples, des pistes, je pense que ça serait intéressant qu'on dégage ça. Voilà, je me tais, je vous laisse.
Non, non, mais moi...
je suis très bavarde, excusez-moi.
Eh bien, les questions ont été lancées. Alors, si vous avez des réactions particulières ou d'autres questions à faire, formuler.
Oui, effectivement, vous mettez l'accent sur le fait que les élèves se sentaient désirés puisqu'ils étaient sélectionnés, les enseignants de la même manière. La question de la généralisation, le ministère a tranché puisque le bac pro 3 ans est généralisé. Et du coup, le désenchantement alors des élèves, bien sûr, de sa femme et des enseignants, j'imagine que ça rencontre à la fois les réticences du second établissement et la question qu'on se pose toujours, une expérimentation qui fonctionne, elle fonctionne parce qu'elle est dans un tissu local, un contexte local, dès lors qu'elle se, finalement, généralise, pas les outils qu'elle a utilisés, mais l'expérimentation elle-même, et qu'elle devient institutionnelle, en réalité, elle commence à toucher des gens qui ne sont pas désireux, forcément, d'entrer là-dedans.
Oui. Moi, je peux vous raconter juste une anecdote, mais qui poursuit peut-être le stade où on est actuellement ici, dans ce que vous racontez. J'étais dans une autre académie, où dans l'établissement, on a mis en place un bac pour 3 ans, à peu près sur les mêmes modalités, c'est la sélection... Et une autre situation aussi, c'est que le référentiel venait changer et les auteurs du référentiel étaient les profs de l'établissement. Donc, on montrait ce côté élu des élèves, des professeurs, etc. Et ça s'est passé comme vous l'écrivez là aussi, c'est-à-dire l'engouement, notre cursus en 3 ans, on surveille bien cette idée que c'est ça qui est motivant. Par contre, ce qui s'est passé, il y a eu au bout d'un an et demi, le même fléchissement que celui que vous évoquez. Et donc j'étais allé un peu regarder la question. Bon, il se trouve que dans cette histoire, les élèves avaient été valorisés effectivement. On insistait sur la réussite, etc. Mais les profs aussi étaient heureux de constater d'avoir des élèves qui enfin comprenaient, je pense, ce que vous dites. Hein. Et du coup, ils ont fixé des exigences toujours plus hautes. Pendant le cursus, pendant un an et demi, la barre montait régulièrement haut. Et quand j'ai interrogé les enseignants sur les activités qui étaient proposées, on était déjà au-delà de ce qui se pratiquait dans l'ancien bac pro, en terminale bac pro. Et donc, le désenchantement, il venait aussi du fait qu'il n'y avait pas forcément de régulation dans tout ça. Il y avait une espèce d'appel, là, les élèves réussissent, etc. On y va, et puis de la part des élèves, la réussite, c'est intéressant aussi, mais on dit se projette, ça c'est bien au début, mais 3 ans, c'est quand même 3 années. Au bout d'un an et demi, là aussi, confrontés les autres, qui étaient dans d'autres curriculums, et ils arrivaient un petit peu à échanger, et puis voilà, il y avait des interrogations là, sur ce côté élu, est-ce que les noms des enchantements, est-ce qu'on m'a bien sélectionné, aussi bon qu'on n'arrête pas de faire confiance qu'on m'a donné. Donc j'avais rencontré ça à l'époque, on est quand même allé au bout des 3 ans, et il y a eu un très bon pourcentage aussi de mal des tours. Hein. Mais il a fallu que le chef d'établissement est revenu sur la question pour essayer de réajuster un petit peu à la fois les exigences des enseignants, de l'équipe. D'ailleurs, l'équipe s'est un peu transformée dans le temps. Et puis, voilà, les élèves ont été aussi plus associés à l'ensemble des établissements, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi dans ce concours. C'était juste une anecdote pour...
D'autres remarques, d'autres questions?
Oui, la réaction à chaud, oui. Alors je vais peut-être un petit peu critique. Et puis, mais je me demandais si effectivement la constitution d'une classe de niveau, en fin de compte, c'est ce qui s'est passé, pouvait constituer une expérimentation. Et je serais curieux de savoir, puisque vous disiez qu'il y avait, on avait sélectionné 12 élèves sur 40, les 28 autres.
Ils sont BEP.
Comment c'est déroulé leur cursus?
Ils sont deux groupes de BEP.
Est-ce que vous êtes penché sur leur perception du bac pro de leurs camarades?
Non. Ça on s'est dit, mais on n'a pas été. Oui. Alors moi j'ai commencé ma carrière, si j'ose dire, sur ces problèmes de groupe de niveau, puisque j'étais dans les dispositifs des collèges Le Grand, où on établissait des groupes de niveau avec des curés, des passerelles. Puis finalement, au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Mais bon, c'est vrai que c'est une question. Hein.
Alors c'est vrai que bon, ça crée cette dynamique à un moment donné, mais est-ce que c'est une stratégie acceptable pour créer une dynamique à un moment donné? Question sans réponse. Oui, oui.
Du coup, je peux citer ce qui s'est passé dans notre académie. Oui. L'année dernière, dans le secteur automobile, il y a eu un petit peu la même expérimentation qui a été mise en œuvre. 5 lycées professionnels ont décidé de valoriser l'ambition de leurs élèves. Cette fois-ci, c'est Bac Pro vers BTS au DUT. Et au cœur de la classe, quelques élèves qui n'ont pas été choisis, mais qui ont accepté, enfin qui se sont lancés dans ce projet intitulé Bac Plus. Donc on a mis ça en ligne très récemment. Donc rester au cœur de la classe. Et pour ces élèves-là, il y avait un échange de pratiques, échange de savoir sur site, c'est-à-dire dans des classes d'université ou. Donc il y a eu échange, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait interaction entre les élèves, mais aussi en termes de savoir et de pratique professionnelle chez les enseignants. Il y a eu vraiment ces temps-là. Alors pareil, engouement en première année. Quelques équipes cette année nous ont dit qu'elles mettaient un peu le projet entre parenthèses, mais ça a été proposé ensuite dans une autre filière que le secteur automobile. Cette année, c'était le secteur filière tertiaire. Donc nous sommes en train d'analyser cela. Mais là, les élèves restaient dans leur classe, c'est-à-dire qu'ils n'étaient que 5-6 à accepter, et certains se sont sentis du coup valorisés aussi autour et ont accepté aussi d'être dans une démarche un petit peu plus. Comment dirais-je, ça a créé en fait une certaine émulation, parfois dans la classe, pas toujours, mais parfois. Mais nous ne sommes qu'au début de l'analyse. Donc,
en ce qui me concerne, j'aurais une question justement qui peut. Peut-être, vous parliez de la sociologie de la traduction et il y a eu des exemples, des études qui ont été faites concernant un atelier d'ouvrières qui justement, l'objectif était d'augmenter la production et il suffisait qu'on s'intéresse à elles pour que la production augmente. Alors à un moment donné, ils ont changé l'éclairage et simplement en leur mettant un peu plus de lumière, et la production augmentait aussi. Donc je me posais la question, est-ce que il y a un lien entre, est-ce que ça suffit de mettre en lumière, de valoriser des élèves dans un contexte qui, mis à part le cadre, c'est-à-dire Bac Pro en 3 ans, est-ce que ça suffit pour être dans une expérimentation? Est-ce que, au niveau des pratiques, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a bougé? Moi, ça m'interpelle aussi. Bon, mis à part, on voit que les enseignants ont changé de posture, sont plus attentifs, ils valorisent les progrès, etc. Mais dans leur pratique d'enseignement, qu'est-ce qui a changé du fait de passer d'un BEP à un bac pro 4 ans à un bac pro en 3 ans? Quelle est la dynamique qui a été créée, si ce n'est que de valoriser et d'être à l'écoute attentif? Voilà.
Donc, on n'a pas fait d'observation de séquences, hein, rien. Donc, c'est leur discours encore. C'est tout le travail de reconstruction, donc de référentiel, de passer de 4 ans à 3 ans. Et donc de le tester avec les élèves. Et puis il y a eu ce que j'ai évoqué, le fait de quand même décloisonner quasiment entre maths, comptabilité, un certain nombre, de travailler tous ensemble tout le temps. Et de pouvoir dire, bon, ben là, une demi-heure, je m'arrête, un autre. Il y a vraiment eu un décloisonnement du temps et des tentatives d'approche transversale. À deux, il aurait fallu aller observer, mais d'après ce qu'il dit, c'est ça. Donc l'expérimentation, c'est pas seulement de passer de 4 ans à 3 ans, c'est aussi de travailler.
De changer le cadre.
De changer autrement, oui.
Moi, là, ce qui m'interpelle dans la question que vous venez de poser, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on a des réactions qui sont différentes en fonction de.
Du projet.
Place on a, voilà. Quoi, finalement, dans le projet. Parce que c'est vrai que on a tendance, quand on est basique, je dirais, à se dire, bon, mais qu'est-ce que ça fait bouger dans les pratiques ça veut dire que finalement, on a tendance, peut-être trop, je ne sais pas, hein, mais c'est la question que je me pose là aujourd'hui, à non pas prendre en compte finalement les élèves,
Oui, oui.
Mais s'interroger sur les conséquences de l'expérimentation sur voilà, la forme scolaire, hein, ce qu'on évoquait ce matin. Parce que si la lumière fait plaisir, enfin, valorise les élèves, oui. Ça les fait changer pour le coup, ça fait changer les profs aussi, enfin dans leurs relations.
Mais la question pour elle, qu'est-ce que ça a changé dans les pratiques des élèves et dans leur rapport à l'école,
voilà.
Dans
leur
posture, oui, c'est la question que vous avez posée au départ.
Oui, oui,
voilà, c'est que... Sont-ils devenus plus acteurs, plus moins passifs?
Oui,
c'était vraiment votre question.
En dehors du fait qu'on les regarde, est-ce que c'est simplement le fait qu'on les valorise, etc., qui les rend plus acteurs? Parce qu'il y a la sélection, il y a le fait qu'on les valorise, etc. Mais est-ce que ça a un lien direct?
Alors, ce que je peux dire, moi, c'est qu'un des interviews que j'ai fait là, mais donc là, nous sommes apparemment plus dans la période de désenchantement, c'est, de toute façon, maintenant, il y a trop de travail, ça va trop vite, on ne peut plus. Donc, ça rejoint un peu ce que vous dites, peut-être un niveau d'exigence qui s'est poursuit, puis eux, ils commencent à plus arriver à suivre. Et donc, ils disent, ils nous donnent des devoirs le week-end, mais on ne les fait pas. Alors, je lui dis, mais c'est embêtant, ça, quand même, de ne pas faire des devoirs. Qu'est-ce qu'ils disent, vos profs, après? Ils ne disent rien. Je dis, ah bon? Mais vous, quand même, ils me disent « Oh, non, c'est pas grave, ils disent rien. » Donc voilà, je veux dire, on a l'impression que... Alors que l'an dernier, ils disaient qu'ils avaient trouvé du plaisir à travailler, à apprendre, alors qu'ils n'en avaient pas avant. Et là, ça y est, c'est fini. On est quand même dans de l'éphémère, moi, j'ai l'impression. Mais bon, à creuser, hein, ça peut repartir. Les enseignants peuvent dire, là, il y a quelque chose qui se passe.
C'était la régulation.
Oui, voilà.
C'est quand même intéressant ce que vous dites sur le fait qu'ils donnaient beaucoup de travail à l'extérieur. Oui. Comme s'ils avaient compensé la troisième année.
Oui.
Par
une
charge excessive. Oui. Je tiens quand même à souligner que dans les futurs bacs 3 ans, peut-être qu'ils vont être mis en place à la rentrée, en tertiaire, ils vont être à 33h30 par semaine, ils étaient les grands industriels à 34h30 par semaine. Mmh. Et là, je pense qu'il y a un gros travail d'alerte qu'il va falloir faire au niveau des enseignants. Mmh. C'est que le gamin, il a 35 heures par semaine.
Et si en plus on en rajoute.
Année, oui, oui. Le soir, le week-end, les vacances. Parce que le prof, il fait ses 18h, mais surtout, certes, il y a des temps de concertation, mais vous allez aussi évoquer des décharges horaires, ce qui ne sera pas le cas non plus. De travail commun, mais une direction de terrain, sur 20 heures dans l'établissement, c'est maximum. Déjà, il sera 35 heures.
Moi, je ne me suis pas penchée sur le référentiel, mais je travaille dans un PO, donc on a une CEP, et les collègues ont l'air de dire que finalement, les attendus au niveau des épreuves sont extrêmement modestes. Donc, par exemple, en vente, le cas pratique, c'est un coup de fil.
Ça se limite.
Beaucoup plus modeste que ce qui était demandé.
Au BEP, déjà, même au BEP.
En bac pro.
Oui, oui. Mais même en BEP.
C'est pas ce qui est attendu en bac pro, c'est ce qui est attendu au niveau certification 5, au niveau BEP. C'est vrai que la seule expérimentation qui est mise en place, j'ai été amenée aussi à suivre un peu les équipes. Effectivement, il y avait beaucoup d'incertitudes de la part des enseignants sur comment on allait articuler la formation du BEP. Parce qu'il y avait cette incertitude sur ce que les élèves d'abord allaient passer le BEP. Et ça a créé peut-être une inquiétude sur l'organisation, la prise en compte de certaines compétences du BEP, etc. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des redondances, mais il y avait des choses que les enseignants considéraient qu'il fallait quand même travailler alors c'était le niveau 5. Donc comme ils ont expérimenté, ils ont tenté des choses, ils ont fait des choses qui intégraient certaines compétences du BEP. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, parce qu'ils ont le sentiment finalement par rapport au bac pro, je pense que c'est un sentiment seulement, qu'il leur manquerait des choses, forcément. Et je pense que c'est ce qui produit ça. Alors au niveau des attendus, oui, que ce soit le diplôme, les attendus sont exactement les mêmes, les référentiels n'ont pas changé. Les référentiels de niveau 4,
les épreuves
n'ont pas changé. Donc ça veut dire que les élèves vont avoir 30 et quelques 35 heures de présence dans l'établissement et qu'on va sur 3 ans et qu'ils vont avoir à passer les mêmes épreuves qu'avant.
Oui, tout à fait.
Oui.
Donc pour la partie professionnelle, parce qu'il y a quand même une recherche des référentiels de
fonds. Programme.
Alors, moi, ce qui m'a frappé aussi, vous évoquiez les stages en entreprise, c'est le stage en entreprise. Il a fallu poser la question plusieurs fois. Ça n'apparaissait pas vraiment une préoccupation dans l'établissement. Hein. C'était le dernier problème à régler. Hein. Après, il y avait bien d'autres choses à régler. Et le stage en entreprise, donc il a été mis l'an dernier en fin d'année. Les élèves sont débrouillés comme ils pouvaient. Là, dans les entretiens que j'ai recommencé à faire, globalement, ils semblent très satisfaits. Mais dans l'établissement, on leur en a très peu parlé. Hein. Il y a vraiment toujours la coupure, le stage qui est une chose et le cursus scolaire qui est autre chose. Moi qui ai travaillé des années sur le partenariat, je vois que rien ne change.
Non.
Enfin, rien ne change, si, comme il ne faut pas être noir.
Il faut quand même prendre en compte que dans l'expérimentation, ce que vous avez regardé, c'est deux bacs pro.
Oui. Donc c'est très limité, hein. Oui. Et on a regardé de façon limitée, hein. Quand j'ai pas passé 15 jours tous les jours dans l'établissement, j'ai pas observé de séquence. Donc c'est une analyse de discours très très ponctuelle. Hein. Je crois que c'est.
Je dirais dans la formation professionnelle, la comptabilité c'est très particulier. Je sais pas comment dire ça. De la part des enseignants, il y a une conviction qu'il faudrait que les élèves aient énormément de connaissances techniques pour pouvoir aborder la comptabilité en entreprise. Et ça, c'est. Voilà, c'est. Alors, bon, on lutte, il y a un travail qui est fait autour de ça. C'est ce qui explique que finalement, c'est dommage, mais effectivement, les professeurs hésitent à envoyer les élèves en entreprise rapidement en se disant que. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire en entreprise alors qu'ils ne savent rien faire? C'est vraiment typique de l'état d'esprit en comptabilité qu'on ne trouve pas dans d'autres, peut-être pas autant dans d'autres filières.
Oui.
Alors que finalement, particulièrement dans cette expérimentation, je crois justement que les élèves, au-delà du fait qu'on s'est occupé d'eux, ils ont le sentiment qu'on s'est occupé d'eux, ils avaient besoin aussi de comprendre le métier vers lequel ils se dirigeaient, comme pour tous les métiers.
Oui.
Parce que c'était des élèves qui sortaient, pas forcément de troisième, effectivement, malheureusement, il y avait des redoublés en seconde, mais pour autant, quelle représentation de métier ils ont, ces jeunes qui sortent de seconde ou de troisième. Et donc, c'est vrai que l'utilisation de l'entreprise, enfin, envoyer les élèves en entreprise en même en observation rapidement, ben, c'est peut-être un outil qui aurait pu être mobilisé.
Sinon, revenons à la question qu'elle prise en compte des élèves dans l'évaluation des expérimentations. Parce que j'entends ce que vous venez de dire, finalement, faudrait-il aussi partir d'élèves un peu atypiques, enthousiastes, un profil, avec des représentations spécifiques? C'est peut-être aussi une question qu'il faudrait. Peut-être que nous pourrions poser aux équipes que nous accompagnons pour le coup.
Oui.
Parce que le profil des élèves a aussi un impact sur nous qui sommes
la conduite.
Du côté des pratiques des enseignants qui analysent cela plus particulièrement. Faut-il aussi vraiment mettre l'accent sur les profils des élèves, les gestes possibles.
Et de manière plus générale, analyser et essayer de penser en amont les conditions de la réussite de l'expérimentation. Parce que là, est-ce que c'est une expérimentation qui produit une réussite au niveau des examens, si on s'occupe on prend en compte cet indicateur-là, ça a marché. Mais ouais, la question que je me pose, c'est on a parlé de devoirs supplémentaires à la maison, etc. Quelle a été la compensation qui a été mise en place par les équipes pour récupérer cette année qui manque, quoi? Et comment c'est intégré dans la classe, comment ça se joue dans la classe ou hors la classe, en dehors des devoirs supplémentaires, ça c'est la question qui me taraude. Est-ce qu'on a analysé ça? Justement, on passe d'une logique de 4 ans à une logique de 3 ans. En dehors du fait, et là je vais jouer le réacteur subjectif, je veux dire, ce que j'ai ressenti dans votre propos, c'est en dehors du fait qu'il y a eu beaucoup de bienveillance, de bon, il y a une organisation qui est mise en place et je ressens ça. Bon, on fait beaucoup attention parce qu'on est dans l'expérimentation, on fait attention aux élèves, on fait attention à la façon dont on fait, on est beaucoup plus attentif, on les a choisis, etc. Donc il y a une logique quand même bienveillante parce qu'on met un éclairage sur quelque chose. Mais on n'a pas pensé en amont les conditions de la réussite de cette expérimentation. C'est tout à fait subjectif. Hein.
Moi, je dirais le contraire. Je dois les avoir pensé en amont, les conditions.
Dans le sens où, effectivement, on a fait un choix auprès des élèves.
Ah oui, mais est-ce que c'est une condition de réussite de l'expérimentation?
L'étude
est un peu artificielle.
Voilà.
Oui,
moi,
on parle de bienveillance. Mais la bienveillance, c'est quoi au bout du compte? C'est faire en sorte que les élèves se sentent impliqués dans la démarche et impliqués dans leurs apprentissages. Et impliquer un élève dans son apprentissage, c'est une des conditions de sa réussite, et c'est voire même là.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais justement, qu'est-ce qui est mis en place pour que les élèves soient acteurs? Voilà. Et justement, est-ce que c'est la bienveillance, le fait de les avoir choisis, qui les rend moteurs, les rend acteurs? Ou est-ce que c'est le dispositif qui est mis en place qui les rend... voilà, c'est la question que je me pose. Voilà.
Voilà. Dispositif, mais effectivement, là, on va pas sans l'autre non plus.
Hein. Oui, oui. Oui, oui, oui.
Mais on peut se poser la question pour toutes les expérimentations autres. Est-ce que le fait d'être dans un dispositif expérimental ne produit pas cet
ça,
effet
il y a cet
élèves,
effet-là, hein, effectivement.
Oui, non, simplement sur qu'est-ce qu'on voit. Là, quand on a décrit l'expérimentation, on voit le public trié, etc. On arrive à se poser la question de l'intérêt de l'expérimentation en plus d'une généralisation qui se passe dans ce cas. Donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'aller analyser les processus, effectivement,
oui.
qui ont été mis en œuvre.
Oui.
On les a décrits, il y a quand même cette idée de travailler en interdisciplinaire, de proximité. Un peu Donc, c'est ces éléments-là qui pourront servir et qui, eux, ont de l'intérêt parce qu'ils montrent effectivement les belles conditions pour rendre les élèves un tout petit peu plus concernés par la situation. Vous décriviez tout un tas de logiques initiales qui auraient conduit à la mise en œuvre, et on voit bien que derrière, dans la mise en œuvre, on n'en a suivi qu'une.
Et
ce challenge sur 3 ans. Donc, si on réinstalle l'ensemble des logiques qui étaient là à l'origine et qu'on essaie de les inclure après dans l'observation des processus qui ont été mis en place, peut-être que là, on dégagera quelques idées pour la généralisation. Enfin, moi, je le vois bien.
La question que je me pose aussi, et que je la posais sur le projet dont je vous parlais tout à l'heure, pas plus, c'est peut-on dire que le changement de posture, parce qu'on est là-dessus aussi, de l'enseignant, entraîne de façon presque assurée un changement de posture de l'élève aussi? Parce que c'était un peu de cette question que vous étiez parti. Finalement, quand on prend en compte l'élève différemment, etc., ça pourrait être aussi une question intéressante, et alors à analyser sur du long terme.
Moi, je vois d'autres établissements ont expérimenté depuis. Donc, un qui a commencé simplement cette année, où là, on n'a pas eu à trier, puisqu'en fait, c'est le 2P s'est transformé en bac pro, et que...
ce serait intéressant de faire le parallèle.
Et donc, c'est les mêmes qui se sont présentés cette année-là. Donc, on est sur le flow normal.
Oui.
Eh bien, on constate quand même le même effet, un peu pour rejoindre sur ce que vous dites, c'est tout simplement parce que les enseignants se sont dit, nous, on se met dans la posture de l'expérimentation. En fait, on observerait bien sûr des changements dans des organisations, mais ce facteur-là est important. Et là, sur le public, et même lorsqu'on regardait, on a cette année en plus une année qui aurait été qualifiée de mauvaise année, de mauvais recrutement par rapport aux années précédentes. Ça se déroule plutôt bien pour la première année avec ce que vous racontez, c'est-à-dire la mobilisation des élèves, l'envie d'être
valorisé, de Vous vouliez parler, oui?
Oui, moi j'ai deux choses concernant l'équipe enseignante. Vous dites il y a deux profils dans les équipes, je sais pas,
deux établissements.
Et il y a l'équipe qui s'est constituée parce qu'on a demandé à ce qu'elle soit constituée comme ça. Bon. Résultat, l'équipe de copains semble s'impliquer davantage, etc.
Plus passionnel.
Voilà.
Donc la place de l'affectif dans une expérimentation,
d'enseignants dirais, classiques, hein, finalement, elle fait son travail en ayant un peu de recul sur oui, mais attention, il y a quand même des trucs, là, on ne va pas aller trop loin parce qu'on va tomber, on ne sait jamais. Est-ce que ce que vous dites là des élèves qui disent on est un peu désenchanté, est-ce que vous le ressentez aussi fort dans un établissement ou dans l'autre? Est-ce que ça c'est la même chose?
Je suis allée dans l'établissement où les enseignants avaient été, enfin, moins fusionnels. Hein. Je ne suis pas allée dans l'autre.
Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans les établissements...
Je ne suis pas allée dans l'autre parce que je n'arrive pas, la principale ne me répond pas. Donc j'ai l'impression qu'ils n'y tiennent pas, parce qu'on y retourne. Donc là, c'est le jeu des négociations, ça veut dire quelque chose en tout cas.
On va prendre une dernière question et puis après on prendra un petit temps si vous voulez bien pour se mettre d'accord sur les questions à faire remonter ou une réaction.
Ça fait 7 ans que j'observe les innovations, puis certaines sont devenues chez nous des expérimentations dans l'Académie de Nice et sur le département du Var où je m'occupe. Et on se rend compte en fait que quand on a effectivement une action qui est partie, qui est partie d'un groupe de copains, donc d'une équipe soudée, effectivement avec de l'affectif ou là,
des valeurs ou des
ça fonctionne, ça perdure. Maintenant, il y a des moments d'abattement dans des équipes comme ça sur le long terme, de lassitude, quand ils ont l'impression que la valorisation institutionnelle.
Voilà le projecteur, l'histoire du projecteur.
Après, c'est vrai que les équipes, alors nous, hein, ça, c'est vraiment les équipes qui sont constituées, c'est ce que je disais hier dans notre atelier, pour plaire, pour complaire au chef d'établissement, en réalité, là, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les objectifs ne sont jamais clairement identifiés par les profs, ou leurs objectifs explicites ne sont pas les implicites. Et en réalité, après quoi pourtant, certainement pas. Ça bénéficie à personne. Alors l'élève va être valorisé parce qu'il est au centre de l'expérimentation au départ et il le sait, mais très vite en fait, hein, ça va déraper parce que évidemment que l'équipe n'est pas là à elle.
Mais je pense qu'il faudrait creuser la dynamique des groupes élèves quand même.
Oui,
c'est un travail. Et leur pratique dans le travail, leur investissement, leur modalité d'investissement dans le travail.
Ouais. On va être... vous leviez la main? Oui.
Parce que vous avez posé la question, comment développer l'intérêt collectif des élèves?
Oui.
Et simplement, je pense que effectivement, changer de pratique pédagogique, c'est important pour les élèves qui sont sur le troisième, parce que ce que vous avez dit, c'est que c'est un troisième, enfin avant, comme vous disiez, et si on fait un temps fort, si on met en place un temps fort, dans la façon de s'occuper des élèves, de changer ses pratiques de travail en transversalité. Je sais que les professeurs ont travaillé ensemble sur des situations et qu'ils ont fait des cours ou tri-animation même avec les élèves. Ça, c'est bien si c'est pérenne, je pense.
Ce sera un électrochoc dans la durée.
Oui.
Oui, pensez l'organisation. Voilà.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est ça. C'est un temps très fort. Ouais. Mais alors, la question de la durée se pose.
Elle doit reposer sur une réelle organisation, et il me semble on met en place un dispositif et puis essayer d'analyser est-ce que c'est pertinent, c'est pas pertinent, et puis on essaye de penser l'organisation collective pour que ce soit porté pas essentiellement par des acteurs motivés, etc., mais par un ensemble, une organisation qui perdure au-delà des acteurs. Et on est dans l'animation plutôt que dans... Et c'est souvent le travers. Il faut qu'on s'arrête. Je crois que...
Oui. Là, maintenant, c'était imposé aux profs parce que c'est un cas.
Là, je crois qu'il faut qu'on s'arrête.
Donc, moi, j'ai une question, parce que sur l'académie, là, ce n'est pas généralisé cette année encore. C'est les établissements où le CA a voté la mise en place. Ça sera généralisé. Dans d'autres académies, c'est complètement généralisé pour tout. Oui, complètement généralisé.
On prend 5 minutes là pour stabiliser les questions, faire remonter. Alors, il y a la pub,
recherche et formation, un numéro sur les innovations qui est vieux, 99, mais que je trouve toujours pertinent. Et puis donc un numéro sur les espaces d'intérêt qui vise plus les acteurs adultes et pas les enfants. Mais il y a quand même un autour des mots où il montre comment l'intéressement des jeunes peut être pris en compte. Voilà. Recherche et formation, très bonne revue.
Alors.
Donc, il y a prise en compte des élèves dans l'évaluation d'une expérimentation. Il y a une première question, est-ce qu'on peut essayer d'en sélectionner quelques-unes ?
Oui. Alors, vous. Ou avec réponse, il y a eu la consigne qui était donnée, les questions qui ont été soulevées, pour lesquelles. On n'a jamais toutes les réponses, mais.
Questions sans réponse, on en a beaucoup.
Oui, voilà. Bon, mais on peut avoir des questions à soumettre à la table ronde avec des éléments de réponse qu'on a pu avoir. Mais...